remportons ces élections, tout va changer.
RPH déroule le tapis rouge à la 63e rencontre cinéma de Pézenas.
Το ερώτημα δεν είναι γιατί ασχολείται κάποιος με το κίνημα, αλλά γιατί δεν ασχολείται.
Retrouvez chaque jour les intervenants, les cinéastes et l'équipe du festival.
Ils font tout pour vous écraser, vous et l'espoir que vous représentez.
To break out of these chains is already a big win.
Monsieur Costa Gavras, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation à passer un moment avec les auditrices et les auditeurs de Radio Pays d'Euro et RPH Sud. Sachez que c'est un honneur pour nous de pouvoir diffuser cet entretien. Vous êtes inscrit sur la liste des invités de la 63e édition de la Rencontre Cinéma de Pézenas et un certain nombre de vos films sont projetés. Vous en avez présenté quelques-uns, vous allez continuer à en présenter quelques autres. Une manifestation de ce type, pour vous, ça représente quoi ?
Ça représente une chose très importante parce que c'était une sorte de retour au public. Présenter le film face à un public et avoir aussi éventuellement leur réaction, discuter avec eux, c'est essentiel parce que on s'aperçoit si le film continue à vivre ou si elle se meurt. Les œuvres, en général, les œuvres artistiques, vivent, elles ont un moment de vie, et puis après, elles passent au passé. Ça devient du passé. Là, je m'aperçois que quelques films continuent à être présents. Si je comprends bien, c'est la réaction du public. Et ça, c'est un grand honneur. Et essentiellement, je préfère présenter le film au départ que d'avoir un échange à la fin. Parce qu'un échange à la fin, ça risque de modifier la relation du spectateur avec le film. Je préfère que le spectateur parte avec les idées du film, qu'avec un dialogue qui peut être très, très, très enrichissant, mais qui écarte un peu du film pour venir vers d'autres choses techniques, vers des questions et des réponses techniques, etc. Donc c'est ça mon sentiment, mais en général, le fait de présenter le film dans un festival comme ici, à Pézenas, c'est d'abord c'est un grand honneur, et c'est aussi une expérience formidable.
Chez le spectateur qui a assisté à la projection de votre film, il y a peut-être l'envie de vous dire sa reconnaissance, puisqu'il a été touché. Et c'est peut-être aussi, pour eux, le moyen de partager des émotions avec les autres personnes qui sont dans la salle.
Moi, j'aime bien l'idée des émotions, parce que le cinéma est là pour créer des émotions. C'est son rôle, à mon avis. C'est avec ces émotions qu'on vit par la suite, on discute, on ne fait rien. On est libre complètement. La reconnaissance, je ne suis vraiment pas, parce qu'on ne fait pas un film pour être connu ou pour faire changer d'idée aux personnes. On fait un film avec ce qu'on ressent soi-même. En tout cas, moi, je le fais comme cela. Et avec une fois parti, c'est comme les enfants. Ils ont une vie que, pas eux, ils ne choisissent pas, mais ceux qui choisissent, ce sont les spectateurs. Donc ça ne nous appartient plus, le film, après. C'est pour ça que je suis contre la reconnaissance.
Vous avez quitté la Grèce à l'âge de 19 ans pour rejoindre la France. Et vous avez entrepris des études à la fois à la Sorbonne et ensuite à l'IDEC. Pour quelle raison vous avez quitté la Grèce à ce moment-là?
En fait, je n'ai pas quitté la Grèce, j'ai fui la Grèce. Parce que la Grèce sortait de la guerre civile, ils avaient fait une loi. Les enfants de ceux qui ont fait la résistance avec la gauche, et la gauche qui était dirigée par les communistes à l'époque, ne peuvent pas aller à l'université. C'est une chose qui a duré pendant 7, 8, 10 ans presque, et je ne pouvais pas faire des études. C'était une chose tragique parce que toute une génération n'a pas pu faire des études universitaires. Donc le seul pays où je pouvais faire des études, et en plus des études gratuites parce que mes parents ne pouvaient pas m'aider, c'était la France. Et c'est vrai que je suis arrivé en France, à la Sorbonne, je me suis inscrit, et ça a été vraiment une découverte formidable, découvrir un pays où les étudiants ont beaucoup de droits, le droit de trouver des petits travails, des droits de logement, de restaurant, etc., etc. Et ça a été vraiment l'idéal. Et après, j'ai fait l'école de cinéma, où j'ai appris cette espèce de miracle qui allait produire des histoires en images. Et j'ai décidé de rester. Mais finalement, je n'ai pas ma décision qui a compté, c'est ce que les Français pensaient de moi, et j'ai pu être accueilli partout très, 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 très bien et continuer à vivre en France, à travailler comme assistant metteur en scène. J'ai eu la chance de travailler avec les grands metteurs en scène de l'époque, comme René Clair, comme René Clément, comme Yves Allégret, Jacques Demy, etc. Et j'ai pu rester, faire des films aussi. Alors, je suis un cinéaste, si vous voulez, d'origine grecque, mais essentiellement, j'ai une culture de cinéma entièrement française.
Les éléments que vous avez vécu, là, 20 premières années, le fait que votre père soit anti-royaliste, hein, ce qui vous a obligé à fuir la Grèce, ça a influencé ce que vous êtes devenu par la suite et ce que vous avez fait?
Bah, vous savez, la base d'un homme, c'est ce qu'il apprend dans les premières 15-20 années de sa vie. Et ce qu'il a vécu. Moi, j'ai vécu des moments tragiques, notamment l'occupation allemande, même si comme enfant, on ne voit pas tout ça avec toute la grandeur de sa tragédie. Et puis après, la guerre civile, celle-là, je l'ai vécu carrément, j'étais jeune homme, et c'était épouvantable. C'était la guerre civile où, pour des raisons politiques, le frère tuait le frère, en disant, voilà, moi j'ai le secret pour rendre le pays heureux. Mais pour cela, il fallait tuer des gens, remplir le monde de cadavres, des deux côtés. Et j'ai compris très très vite que ce n'était pas sa façon d'être démocrate, ce n'est pas sa façon de vivre dans une société. Il fallait qu'on se parle, qu'on s'entende, qu'on se trouve des solutions sans passer par ces violences-là.
Vous avez produit 21 films, un certain nombre de courts-métrages, vous avez fait énormément de choses. Vous avez également écrit un livre qui a un titre. Et je voulais savoir si le titre de ce livre, que vous pouvez nous préciser, ce n'est pas une profession de foi.
Ça n'est une. Ça n'est une parce qu'il dit « va où il est impossible d'aller ». Parce que d'où je venais, de la famille d'où je venais, du pays d'où je venais, des équipes, de la culture que j'avais de ce pays, de mes premiers 19 ans, ne conduisait à rien du tout. Et je suis venu en France, et la grande ambition que j'avais en France, c'est de pouvoir faire des études, et pouvoir vivre une vie normale. Et tout d'un coup, par une série de choses, et par une volonté personnelle aussi, j'ai fini par devenir metteur en scène, et faire des films, qui ont fait le tour du monde, certains d'entre eux. Donc ça, c'était un miracle pour moi, si on croit au miracle. Ben, c'est une chose impossible, mais ce n'était pas un miracle à mon avis, c'était la conduite qu'on peut avoir dans un pays comme la France. Cette espèce de liberté, cette espèce de culture, cette espèce d'acceptation aussi des autres qui vous permet d'aller de l'avant. Voilà, c'est cela. Parce que le miracle religieux, non, les miracles sont humains. Et ça, c'est un miracle humain.
C'est la volonté qui fait les miracles.
Ma volonté, sans doute, mais il faut qu'il y ait la volonté de l'autre en face, qui vous voit tous les jours, et de qui vous dépendez aussi d'une certaine manière. Donc cette espèce d'échange qui a fonctionné pour moi formidablement. Je crois que ça fonctionne pour beaucoup de monde.
Chez le public, la volonté de voir vos films existait quand même, parce que vous en avez fait 21. Vous avez eu les moyens de faire 21 films.
Ça aussi, il faut les moyens, avoir appris. Avoir appris que le rôle du cinéma n'est pas automatiquement de faire un commerce. C'est une relation avec l'autre. C'est une création d'émotions, et c'est ses propres émotions, et comment on peut les faire passer pour que l'autre vous comprenne. Et éventuellement, pour suivre ou ne suivre pas. Vous l'accompagne ou vous ne les accompagne pas.
On dit de vous que vous êtes unique, parce que vous êtes le seul dans l'histoire du cinéma à avoir situé vos films dans autant de pays et sur autant de continents différents.
Non, ça pour moi, c'est un seul pays dans tout cela, c'est moi-même et ma vision de telle situation humaine. Et les mêmes situations humaines, que ça se passe en Amérique latine ou que ça se passe en Grèce, ça se passe ailleurs, la dictature, c'est toujours la même. Et les mécanismes changent, mais les horreurs se poursuivent. Voilà. Donc quand c'est une bonne histoire, eh ben c'est se passe dans beaucoup de pays. Voilà. Donc ça n'est pas le choix du pays qui compte, c'est le choix du thème du film qui peut se passer dans n'importe quel pays.
À partir du moment où vous avez le thème, vous avez besoin d'un environnement, vous faites des images, donc vous avez besoin de décors, vous avez besoin d'ambiance et tout
oui,
ça. Donc
sûr.
Obligatoirement, ça vous amène à aller vers les... Mais pour vous donc, ce qui est le plus important, c'est l'histoire.
Voilà, l'histoire et les relations qu'on a comme spectateur avec l'histoire. Ça, c'est essentiel. Et que beaucoup d'histoires sont les mêmes pour les hommes du monde entier. Et c'est vrai que le cinéma a rapproché, on a pu voir des Chinois, on a pu voir des Ouzbeks, on a pu voir comment ils vivent, et c'est ça le miracle du cinéma.
On dit aussi que vous êtes le seul à toujours avoir amené le cinéma sur le terrain politique et sur les lieux des grands bouleversements du monde.
Le cinéma politique est beaucoup utilisé pour mes films. Moi, je pense que tous les films sont politiques. Le philosophe français, Roland Barthes, a dit ça. Il a même dit que tous les films sont politiques, il y a de la politique dans tous les films, et on peut analyser les films politiquement. Voilà. Je pense qu'on ne s'en sort pas du problème politique. Politique, pour moi, ce n'est pas pour qui on vote, c'est ce choix-là. La politique, c'est le comportement que nous avons vis-à-vis de l'autre, et que l'autre vis-à-vis de nous. Les espèces d'échanges, c'est profondément politique. Parce que politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, depuis l'Antiquité, notre relation dans la ville, la police. Police dans le sens ville, pas la police. Oui. Il faut aussi de la police, évidemment. Voilà, c'est ça la politique.
Par rapport à ces options qui vous guident, vous avez une façon d'écrire des scénarios qui posent des problèmes politiques. La façon dont vous les écrivez fait que le public y adhère. Un public plus vaste que le public de certains autres films qui se veulent politiques, peut-être trop didactiques.
Non.
Vous embarquez les gens dans une histoire et qui pose un problème politique. Mais d'abord, l'histoire retient l'attention du spectateur.
Oui, parce que, comme je disais, les relations avec les autres, elle est politique. La relation, ce que nous faisons en ce moment, c'est une relation politique. Je vous dis des choses, je dis des choses, etc. Le cinéma a la formidable capacité de voyager et de montrer d'autres façons de penser, d'autres façons d'accepter la situation dans laquelle ils vivent, positive ou négative. Donc, aimer le cinéma, je l'oublie toujours, c'est avant tout un spectacle. Un spectacle de la manière les anciens faisaient le théâtre. Molière a fait le théâtre. Donc, c'est une espèce de relation de se réunir tous ensemble à un lieu, le théâtre ou la salle du cinéma. Nous ne connaissons pas et nous vivons face à une situation que nous connaissons ensemble tous et que nous réagissons par la suite. C'est ça qui est la partie la plus politique à venir de tout ça. C'est que des centaines, des milliers de gens, des millions parfois, ce qui concerne les films, sont vus par un film. Et que tout d'un coup, ils réagissent d'une manière qu'ils souhaitent.
Vous avez rencontré Louis Plenel. Et avec Yannick Kerguat, s'est créé le siècle de Costa Gavras. C'est 10 émissions ou 10 films de 52 minutes chacun. Ça a été une grosse entreprise.
C'était une grosse entreprise, mais je ne me suis pas. Mais voilà, ça commençait comme cela. Plenel, que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, m'a dit un jour, pourquoi on ne ferait pas un film sur un de vos films en expliquant le moment historique dans lequel le film est né et les raisons pour lesquelles il a été fait. Donc prolonger le film et dire que le film a un sens par rapport à l'histoire de notre monde. Voilà. Ben, je lui ai dit, si vous voulez ça, faites-le. Moi, je ne vais pas me mêler. Je peux vous dire pourquoi je fais le film et puis vous faites ce que vous voulez. Ils ont commencé avec Yannick Kerguat, qui était un peu mon monteur pour d'autres films, et ils ont commencé ça. Et j'étais surpris de voir qu'ils ont fait des résultats absolument étonnants, parce que comme Plenel connaît très bien l'histoire du monde et les détails de l'histoire des hommes politiques du monde et comment les choses naissent et se meurent, et ben, il a fait des textes formidables, et Yannick a fait des montages avec des films, quelques images de mes films, et prolongeant avec des images vraies de l'histoire,
d'actualité.
Du lieu et du temps. Voilà.
C'est une entreprise importante. Comment s'est passée la première rencontre avec Edoui Plenel? Comment vous êtes-vous rencontré?
Plenel, je le connaissais depuis des années. Et quand il dirigeait les informations au Monde, le oui. journal Le Monde, et je l'admire beaucoup, sa façon de faire, sa façon d'écrire. Et après, pour tout vous dire, qu'un soir, il a dit qu'il a quitté Le Monde, qu'il voulait faire une autre façon de raconter le Monde, Mediapart. Et il m'a raconté. Je lui ai dit, tu sais, ça va être difficile. Et pour être plus gentil, je ne lui ai pas dit tout ce que j'ai pensé. Et j'ai parlé avec ma femme après. J'ai dit, ils vont à la catastrophe, personne n'acceptera ça. Je n'avais rien compris. Et puis ça a pris. Et c'est formidable le travail qu'ils font. Voilà. Donc notre espèce d'amitié, de connaissance s'est poursuivie. Et quand il y avait un grand problème, moi, je m'informais auprès de lui. Et puis parfois, je lui montrais je faisais lire mes scénarios avant de se faire, et il me disait ce qu'il pensait aussi. Donc cet échange s'est poursuivi jusqu'au jour où il a eu l'idée de faire ce qu'ils ont fait finalement, et qui s'est avéré très très positif, parce que quand on les a montrés ici et là, ça a été une réaction très positive.
Et deux premiers épisodes sont programmés dans le cadre...
Ce soir, oui. Je suis très curieux de voir.
Oui.
Comment les gens vont réagir.
C'est les deux seuls qui ont été réalisés, les autres sont en cours, ou bien il y en a déjà d'autres?
Non, il y en a trois autres, cinq premiers films, qui sont en train de se finir. Je pense que dans deux ou trois mois, ils ont fini. J'attends de les voir aussi, pour vous dire, les deux derniers, j'attends de les voir.
Je m'autorise, moi, à avoir une appréciation personnelle, je trouve que c'est un travail de salubrité publique. On connaît la rigueur journalistique et la déontologie d'Edoui Plenel, et puis bon, on sait aussi que la façon dont vous écrivez les histoires pour rendre des difficultés, des problèmes importants, sensibles à un maximum de spectateurs.
C'est parce que ces films-là, ils racontent ce qu'on ne peut pas raconter dans les films que l'on fait.
Oui.
Voilà. Parce que les films que l'on fait, ce n'est pas, je le répète toujours, ce n'est pas un discours académique, ce n'est pas un discours politique, c'est une relation avec les publics, une relation d'émotion avec les publics. Tandis qu'ils mettent cela dans son cadre historico-politico-social dans lequel ces histoires ont eu lieu.
On recevra, je précise pour les auditrices et les auditeurs de Radio Pays des Roues, on recevra Edoui Plenel qui nous parlera de cette entreprise dans une prochaine émission. Une carrière longue, une carrière faite 21 longs métrages, une carrière au cours de laquelle vous avez eu la chance de rencontrer un certain nombre de personnes, que ce soit des gens avec qui vous avez travaillé les scénarios, je pense à Saint-Prun en particulier.
Qui était un ami avec lequel on a fait trois films, et d'autres personnes, des acteurs que j'ai rencontrés qui m'ont beaucoup aidé aussi, comme Signoret et Montand, qui m'ont aidé pour un premier film et qui a lancé la suite. Et puis beaucoup d'autres acteurs, Jacques Perrin par exemple, et Charles Denner, et beaucoup, beaucoup d'acteurs que j'ai admirés et qui ont été, jusqu'à Jack Lemmon, qu'on est en train de regarder en ce moment, qui a été aussi un acteur avec qui on est devenu amis très très longtemps après. Donc c'est des relations qui sont poursuivies avec admiration l'un pour l'autre et aussi avec une échange très franche, surtout sur les films, sur ce qu'on pensait, c'est ce qu'on rêvait aussi.
Je pensais également à Mikis Theodorakis.
Theodorakis, absolument, qui était emprisonné et que pour faire la musique de Z, par exemple, c'était impossible de le contacter. Enfin, il était un peu éloigné d'Athènes, dans un petit village. Et j'ai envoyé ma femme pour essayer de le rencontrer, mais la police l'a renvoyé à Paris. Et puis Jacques Perrin y a été, il a réussi à le rencontrer. Et Mikis, quand il a su ce que je voulais faire, il a écrit sur un bout de papier, c'était un papier de cigarette, « Costa peut prendre la musique qu'il veut dans mon œuvre, dans l'ensemble de mon œuvre, c'est ce que j'ai fait, on en rêve. » Et ça a été, après on a fait un autre film ensemble, quand il a été libéré, et ça a été une amitié importante, parce que c'était un grand, grand bonhomme pour le monde grec et pour le nom, sur le plan politique, sur le plan du comportement personnel, et aussi un exemple musical pour le monde entier, je pense, parce que
c'est une musique, je la ressens comme ça, c'est une musique qui est intrinsèquement mobilisante.
Mobilisante. Pour moi, la musique, vous voyez, ça n'est pas une sorte de supplément dans un film pour rendre la continuité du film plus agréable. Non, c'est un personnage, la musique. Le personnage qui dialogue avec les autres personnages, les vrais, qui dialogue aussi avec les situations. Comme ça, j'ai choisi la musique comme cela, selon le dialogue qu'ils peuvent échanger. Et je pense que Mikis avait fait écrit musique comme s'il pensait au film. Et en adaptant pour le film, ça collait parfaitement. Je pense qu'elle a joué un rôle très important pour la compréhension aussi de ces dialogues avec l'histoire et avec l'environnement de l'histoire.
La musique de Theodorakis qui accompagne la séquence du film Z à la fin, là, est quelque chose qui ne peut pas vous laisser indifférent. C'est
absolument
pas possible.
Absolument. C'est un personnage qui vous dit quelque chose, qui vous fait sentir quelque chose. Il dialogue avec le spectateur.
Tout à fait. Voilà. Et il le touche au plus profond également. Bon, je disais tout à l'heure que votre carrière était longue, a été faite de nombreux films, mais je voudrais que vous me racontiez l'histoire. Il me semble avoir vu ça quelque part quand je recherchais les informations pour préparer cet entretien. L'histoire de la production de nouveaux films, je crois que c'était Z, avec Jacques Perrin.
Avec Jacques Perrin, oui.
Hein? Vous ne trouviez pas l'argent nécessaire pour faire le film?
C'était une aventure formidable parce que j'avais fait le scénario et j'avais proposé à plusieurs acteurs, à commencer par Montand, Denner, enfin tous les autres, Duc, etc. Ils avaient tous accepté, ils allaient chez les producteurs et ils ne voulaient pas le faire. Personne ne va s'intéresser à cette histoire. Et au bout d'un moment, il y a Jacques Perrin qui m'appelle un jour, Costa, tu sais, je suis libre pour faire ton film, mais je pense que je ne pourrais pas le faire parce qu'on me propose d'autres choses. Je lui dis, mais oui, Jacques, écoute, on ne peut pas le faire malheureusement. Je ne trouve pas le lieu, et en dehors des producteurs, des moyens financiers, mais c'est surtout le lieu. Il me dit, est-ce que tu connais Alger? Parce que le milieu de France, c'était impossible, l'Italie avait refusé, etc. Je lui dis, non, je ne connais pas Alger, mais il dit, allons voir, j'ai des amis. On a été là-bas, il avait un ami qui s'appelait Lagdar Lamina, qui était un metteur en scène algérien, qui a eu le prix à Cannes aussi. Et il a présenté le film et il a dit, on peut le faire ici. Qu'est-ce que j'ai appris des années plus tard? Pas à ce moment-là, mais des années plus tard, que Lagdar avait rencontré le ministre de la Culture locale, qui lui a dit, on ne peut pas faire un film comme ça ici. Nous, c'est contre les militaires, nous sommes des militaires qui ont pris le pouvoir. Et puis Lagdar, il a été au président, Boumédienne. Première réaction, plus ou moins la même. Et après, il lui dit, non, faisons-le ici. Parce que les militaires grecs, c'est des fascistes. Nous, nous sommes des révolutionnaires qui ont libéré notre pays. On le fait ici. On ne veut pas lui... Alors, on l'a fait à Alger, avec toutes les possibilités pour tourner jour et nuit, et bloquer la ville, carrément, mais sans argent. Bon, l'argent, on l'avait trouvé peu à peu, d'une manière compliquée, très difficile à raconter. Mais finalement, on a fait le film dans les meilleures conditions possibles, dans ce lieu qui correspondait complètement à la ville où l'assassinat a eu lieu, c'est-à-dire Thessalonique à Athènes, en Grèce.
Quel regard vous portez sur une carrière aussi riche?
Non, je ne regarde pas en arrière. Je fais les films, je suis profondément ému. Quand je viens ici, je vois une salle pleine, une très belle salle, un très beau théâtre à l'italienne, et formidablement restauré par ailleurs, et qui a une salle pleine de gens, que ce soit à l'orchestre, que ce soit au balcon aussi. Et c'est très émouvant de voir qu'ils accueillent le film, et qu'ils m'accueillent d'abord, ils voient le film, après j'ai discuté une fois avec eux, et aussi ils réagissent d'une manière formidable. C'est ça le regard. Il n'y a pas d'autre regard. Il n'y a pas de regard de... C'est vrai qu'il y a des prix pour le film, un peu par... beaucoup de prix, mais ce n'est pas ça qui compte finalement. Ce qui compte, c'est le public tant d'années après et leur réaction.
Je disais tout à l'heure que votre carrière de réalisation de long métrage comportait 21 œuvres. Vous avez à l'occasion obtenu des prix dans tous les grands festivals du monde.
Oui,
que ce soit Cannes, que ce soit tous les autres, Berlin, Venise. Ça vous a aidé dans votre carrière, d'abord sur le plan personnel?
Personnel, vous savez, pour les prix. La grande tension, quand on va à un festival, quand on a proposé les films pour un prix, il y a une tension colossale. Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis on l'a, et c'est un grand plaisir. Et puis après, le lendemain, bon, voilà, on l'a. Et puis un peu plus, on le met à la maison, à une étagère quelque part. On ne le cache pas, on le met dans une boîte, je le mets à un endroit où tout le monde ne veut pas les voir, mais moi, je peux les voir, effectivement.
Et vous avez...
Pour leur faire honneur. Mais c'est tout, finalement.
Ça vous a aidé professionnellement parlant?
Ça joue sûrement un rôle, parce que quand le film sort et qu'il a un prix, tout d'un coup, ça attire l'attention. Ça attire les spectateurs, incontestablement. Et que les spectateurs, sinon, aimaient, et demande à d'autres spectateurs, enfin, il le propose à d'autres spectateurs, etc. Donc le prix, ça a essentiellement cette valeur, qui est une valeur importante. Et aussi sur le plan, si vous voulez, sur le plan personnel, on est content d'avoir des prix. Mais à mon avis, il faut très vite les oublier, les mettre de côté, et faire le film d'après, continuer avec les films d'après, et qu'il ait de prix ou qu'il n'ait pas de prix, et le faire dans les meilleures conditions possibles, personnel, de franchise et aussi pour le public autant que possible.
Quel regard vous portez sur le monde d'aujourd'hui avec tout ce qui se passe, Trump en Amérique,
ma génération a vécu,
la guerre ici ou là?
Ma génération a vécu une occupation allemande terrible. Dans notre pays, on a vécu une guerre civile et peu à peu, les choses ont commencé à s'arranger. On a fait l'ONU qui essayait de trouver des moyens. Les droits de l'homme ont été votés à l'ONU presque à l'unanimité. Et puis d'autres règles dans la vie ont commencé à créer. Donc ça allait très très bien. Enfin, ça allait bien. Et on se voyait vraiment changer ce monde qui était plein de guerres. Il était toujours plein de guerres et de tueries, etc. Mais il y avait une sorte d'espoir, des choses qui commençaient à naître. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe depuis un an, depuis quelques temps, mais enfin, plus que depuis quelques temps, il y a un changement radical, profond. Et je vois que c'est un changement qui n'est pas un moment bref. C'est un moment long. Ça va durer longtemps et on ne sait pas comment il va évoluer. Et c'est ça le grand danger que nous vivons en ce moment. Quand un grand pays comme l'Amérique et un dur président, il y a eu des présidents toujours très durs, mais enfin, bon, pro-américain qui défendait le droit de l'Amérique, mais lui devient un dictateur complètement, il n'écoute personne. Et j'ai lu les journaux américains, des journaux très sérieux comme New York Times, pour essayer de dire tout ce qui est négatif chez eux. Parce qu'on n'a pas toutes les informations, il y a des petits détails quotidiens qui sont terribles de ce que dit, de ce que fait M. Trump. Et je crois qu'il fait entrer le monde, avec d'autres d'ailleurs, avec ce qui se passe en Ukraine, avec ce qui se passe aussi en Palestine, c'est un homme, un monde fou, qui part dans la direction opposée de ce qu'il a été. Voilà. Alors on ne sait pas où ça va aboutir. Je ne pense pas que ça va être très bon.
On dit qu'à travers vos films, vous proposez une réflexion sur le pouvoir et que vous dénoncez le totalitarisme. Aujourd'hui, vous auriez du travail.
Beaucoup de travail, en effet, oui. En effet, et on ne sait pas comment... Mais vous comprenez, ce que fait M. Trump, c'est que c'est fait. D'ailleurs, si ça commence à faire des petits ici et là, c'est inimaginable. On ne sait pas comment... C'est des choses auxquelles on n'est pas habitué et on ne sait pas comment la raconter. Ça fait ce qu'ils appellent, en anglais, les grands comiques, les slapstick, c'est-à-dire des comédies énormes, humaines énormes. Donc... Il faudrait aussi avoir aujourd'hui un Charlie Chaplin pour faire un film sur Trump, comme il a fait sur Hitler à un moment donné, voilà, qui est un film merveilleux, extraordinaire, qui vit toujours quand on les voit. Oui, bah, c'est aujourd'hui, c'est ça. Avec la comédie, l'absurdité, tout est là. Et c'est ça qui est dangereux. On est revenu en arrière, plus d'un demi-siècle en arrière, plus. Parce qu'il a fait ce film sur Hitler, pas après la chute de Hitler, mais avant, qu'il était au pouvoir toujours. C'est un visionnaire, il a vu exactement où on allait avec ces personnages absurdes.
Vous faites référence à Charlie Chaplin, vous pensez que l'humour peut permettre de supporter les difficultés à travers lesquelles on vit actuellement ?
L'humour, oui. L'humour, c'est un moyen formidable. Quand il n'est pas utilisé pour raconter, pour faire rire avec n'importe quoi, mais quand il prend cette dimension-là. Alors, d'abord, il faut voir aujourd'hui et revoir et représenter le dictateur Charlie Chaplin. Là, on comprendra beaucoup de choses et on comprendra la qualité de la relation que nous avons avec l'humour. Avec l'humour, ça nous donne toute la dimension de l'horreur des dictateurs et leur bêtise, parce qu'il y a dans ça aussi.
Et leur dangerosité.
Exactement.
Vous avez actuellement un projet ?
Oui, j'ai un projet, j'essaie d'écrire. Vous savez, à mon âge, il est temps aussi de commencer à devenir plus spectateur aussi, qu'acteur. Parce qu'il y a des jeunes qui ont une vision du monde très, très, très formidable. À mon âge, on vit toujours avec le passé, pour survivre, etc. On fait des comparaisons avec le passé. Mais j'essaye, on verra. Si j'arrive à faire un bon scénario, je continuerai.
On peut savoir ? Non.
Jamais.
Ce sont des choses qui ne sont pas nées.
Il faut parler de quand les choses naissent.
On ne sait pas à quoi elles vont ressembler. On s'arme de patience. Costa Gavras, merci beaucoup d'avoir accepté de passer quelques minutes avec les auditrices et les auditeurs de Radio Pays des Roses. Et merci aussi pour la qualité de cet échange que je suis persuadé ceux qui l'écouteront apprécieront.
Merci beaucoup de m'avoir écouté.